Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le programme alimentaire mondial PAM réduit son aide alimentaire aux déplacés en Ouganda et au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Selon la porte-parole de cette agence des Nations Unies, les restrictions budgétaires ont forcé l'organisme à réduire les rations pour les personnes déplacées dans ces deux pays. Cette affaire relance donc les débats sur la gestion du projet de la réserve stratégique initié par l'État congolais depuis 2003. Où en est-on avec ces projets? Nous en débattons aujourd'hui. Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiokapi.net et appelez-nous au 081-893-15 pour votre intervention en direct. Merci à Pierrot et la Meji pour la réalisation de cette émission. Mise en onde par Willem Lungamba et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-893-15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio, avant d'ouvrir les standards pour vous accueillir, vous, les auditeurs qui aimeraient bien participer à ces débats, Harold Badibanga, qui est le chargé de communication auprès de la réserve stratégique. Bonjour Harold.
Bonjour.
Voilà, alors nous, on aimerait bien d'entrée de jeu nous faire une idée très claire sur le service, ces projets de la réserve stratégique. Alors c'est un service de l'État qui est sous tutelle du chef de l'État.
Effectivement, la réserve stratégique générale se trouve être en service sous tutelle du président de la République, c'est-à-dire
sous tutelle de la présidence, mais particulièrement du chef de l'État.
Oui, étant donné que la présidence est vaste, mais lorsque nous disons que c'est un service qui dépend du président de la République, c'est parce que c'est lui qui en est le visionnaire, c'est bien lui qui sait les missions qu'il a assignées à la réserve stratégique générale. Et donc, pour départir ce service tout ce à quoi une entreprise publique peut faire face par rapport à la gestion, étant donné que les besoins prioritaires de la population rentrent dans la vision du chef de l'État, il a préféré que ce service dépende exclusivement de lui pour mieux faire le suivi compte tenu de la délicatesse.
Mais pas parce que ça dépend d'une personne. Est-ce qu'on peut parler d'un service privé?
Non, étant donné que la personne du président de la République n'est pas privée, étant donné que il ne s'agit pas de l'individu Joseph Kabila, mais il s'agit de l'institution président de la République. Voilà pourquoi nous disons que c'est un service qui dépend du président de la République.
Et quels sont les projets, les objectifs poursuivis par ce projet?
Légendairement, la réserve stratégique générale a été créée dans l'esprit de lui donner des capacités pouvant lui permettre, n'est-ce pas, de constituer des réserves, des stocks alimentaires dans la mesure où ce service devait permettre à l'État congolais, en cas de calamité, de pénurie, de catastrophes naturelles, à faire face à tous ces enjeux. Donc, s'il faut le dire en d'autres termes, le service la réserve stratégique générale a été d'abord un projet de feu Monsieur Laurent Désiré Kabila, pérennisé par Joseph Kabila en 2013, avec comme objectif principal constituer des réserves en termes de denrées alimentaires et bien d'autres pour que au moment où il y a des catastrophes naturelles, au moment où il y a pénurie dans un secteur ou un autre, que la réserve stratégique générale permette, n'est-ce pas, à l'État de faire face à ces réalités en lui donnant ce qui peut manquer au moment où il y a pénurie.
Alors, où en est-on avec ce projet, avec ces services actuellement?
À ce stade...
En d'autres termes, où en est-on avec la réserve stratégique générale?
Où en sommes-nous avec la réserve stratégique générale? La réserve stratégique générale est au moment de la révolution de la modernité, c'est-à-dire depuis un bon bout de temps, Madame la DG de la réserve stratégique générale, Ndona Marianne Sitawankenge, a initié ce qu'on appelle les zones agricoles pilotes, c'est-à-dire des vastes étendues de champs où l'on cultive des produits vivriers de première nécessité. plus principalement Kinshasa et dans le Bas-Congo et même dans le Bandundu, avec intention d'élargir ces zones agricoles pilotes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on fait réellement dans ces zones agricoles pilotes-là? On forme d'abord les paysans par rapport aux techniques modernes de l'agriculture. De deux, on dote ces paysans non seulement des semences, mais aussi de vastes étendues qui leur deviennent propres. On les encadre pour les accompagner à mieux cultiver. Et au-delà de ça, la réserve stratégique générale dans ces zones agricoles pilotes fait de l'agriculture pour effectivement venir en aide aux couches sociales les plus vulnérables comme les enseignants, les fonctionnaires de l'État et même aussi les ASBL qui s'occupent des enfants défavorisés comme les orphelins. C'est à quoi on a l'habitude d'assister généralement à la fin de l'année et même au courant de l'année, par exemple comme au mois d'avril. D'ici là, la réserve stratégique générale va devoir opérer c'est ce qu'elle a toujours eu à faire.
Voilà, Harold Badibanga, parce que vous l'avez dit, que la réserve stratégique est la réponse donc aux calamités et autres formes de crises que connaît pratiquement le pays. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas un secret, la situation humanitaire est très déplorable à l'est du pays, dans l'est du pays, et particulièrement également au Katanga. Au même moment, le programme alimentaire mondial réduit son aide alimentaire ou déplacés à Ouganda et au Nord Kivu, en RDC, tout en gardant toujours un œil sur les Katanga qui connaît une situation humanitaire très déplorable. Alors, nous lançons les débats sur la stratégie, la réserve stratégique générale. Est-ce que la réserve stratégique générale ne peut pas constituer une réponse à cette situation humanitaire très déplorable à l'est, dans l'est du pays?
Non, mais comment ne peut-elle pas constituer une réponse? Par essence, par mission, par ses origines, elle est mieux placée pour répondre à tous ces besoins de nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, mon cher ami, il y a un problème qu'il faille réellement relever ici, c'est que la réserve stratégique générale ayant pour mission de constituer des stocks en termes de denrées alimentaires pour faire face à ces situations, elle est pour cependant une difficulté dans la mesure où, compte tenu des besoins qui sont gigantesques par rapport à toute l'étendue de la République, cette mission se trouve être en souffrance dans la mesure où tout ce que la réserve stratégique produit maintenant pour stocker va directement dans la consommation, étant donné que le besoin est large sur le terrain. C'est ainsi que vous vous rendrez compte qu'il est plus difficile pour la réserve stratégique générale de stocker, par exemple, les denrées alimentaires de première nécessité pendant que le besoin se fait sentir sur terrain. C'est ainsi que lorsque nous produisons directement, il y a des couches sociales les plus vulnérables qui attendent ça sur terrain. C'est ainsi que différents stocks...
Et quelles sont les actions déjà menées, disons, des interventions menées par la réserve stratégique au courant de ces dernières années?
Oui, je réponds à cette question, mais permettez-moi de finir par rapport à ce que j'étais en train de donner comme réponse. Donc, comme le besoin s'est fait vraiment sentir sur terrain, tout ce qui est la réserve stratégique qui produit, elle coule directement sur le marché pour permettre à la population de bien vivre. C'est que cette difficulté...
Et quand surviennent les calamités, la réserve stratégique a difficile à être une réponse urgente.
Oui, a difficile à faire face dans la mesure où les réserves sont difficiles à être constituées par rapport aux besoins qui est grand. C'est ainsi que pour pallier à cette difficulté, il s'agit ici que le gouvernement de la République donne beaucoup plus de moyens pour que la production devienne plus accrue, plus grande, pour que une fois servie...
Donc si je comprends bien, la réserve stratégique a comme approche seulement la consommation directe. Au finish, c'est la consommation directe.
Oui, contrairement à sa mission...
Ça devait constituer une consommation à l'avenir.
Oui, c'est-à-dire lorsqu'elle donne, il faut qu'il y ait le reste pour stocker. Mais compte tenu des moyens minimes qui lui sont donnés, compte tenu du du besoin accru sur terrain, la réserve stratégique est en difficulté de constituer des réserves. Par exemple, pour l'année 2013, l'exercice budgétaire 2013, la réserve stratégique avait un crédit budgétaire de 1 milliard.
C'est ce qui est un peu paradoxal parce que c'est sous titelle du président de la République, mais ce service qui est très engagé aussi dans la modernité, mais n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins des calamités. Actuellement, c'est ce qui est paradoxal.
C'est là que le bas blesse, mais ça ne répond pas directement du point de vue budgétaire. Vous vous rappelez que nous sommes là.
Mais pourquoi ne pas seulement orienter ça vers l'institution présidence de la République? Parce qu'il y a un budget qui émerge, il y a une part qui émerge pour la présidence. Comme ça pourrait aider la réserve stratégique.
Là, ça relève maintenant du fonctionnement de la République. Vous savez que nous sommes dans une séparation de pouvoir. Par exemple, lorsque le budget de la République est voté au niveau du Parlement, il y a un budget et qui s'occupe de l'institution président de la République.
Mais pas un budget de l'individu. Pourquoi ne pas aller directement? Est-ce que vous n'avez pas au niveau de la réforme vous-même au sein de la réserve stratégique pensé que ça puisse être sous tutelle d'une institution? Comme ça pourrait vous couvrir.
Mais la réserve stratégique est déjà sous tutelle d'une institution. Pas parce que constitutionnellement le président de la République est une institution. Mais nous disons plutôt que...
Mais dans ce sens-là, il ne pouvait pas manquer des moyens parce que c'est dans une institution.
Bon, c'est
quand on vote des budgets, on vote des budgets pour cette institution.
Nous en profitons pour lancer cet appel plutôt auprès de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale, étant donné que c'est l'Assemblée nationale qui prévoit. J'étais en train de dire que l'année passée, le crédit budgétaire alloué à l'Assemblée nationale était d'un milliard de francs congolais. Mais malheureusement, cette année, le crédit budgétaire est allé à 200 millions de francs congolais. Alors nous sommes en train de nous poser la question de savoir comment pallier à toutes ces difficultés que ressentent plutôt les couches les plus vulnérables au Congo.
Donc nous retenons qu'aujourd'hui, avec la situation qui prévaut dans l'est du pays, avec cette réduction de l'aide alimentaire, du programme alimentaire mondial, la réserve stratégique ne sera pas à même de pouvoir répondre à cette urgence. On va rouvrir le standard pour recueillir le point de vue des uns et des autres, mais tout en vous rappelant, vous qui nous rejoignez, vous pouvez composer également le 081-890-63-15 ou encore le 081-890-49-69 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Harold Badibanga, vous êtes notre invité, vous êtes chargé des communications auprès de la réserve stratégique générale, si vous le permettez. Nous allons recueillir le point de vue des uns et des autres, voir comment les auditeurs, et particulièrement la population congolaise, émet une idée sur la réserve stratégique générale par rapport à ce qui est fait. Vous l'avez dit, c'est une réponse aux calamités, aux différentes formes de crises que connaît pratiquement la RDC. Omar est à Kinshasa, Arsène est à Kikwit et Teddy à Kolwezi. Omar, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à monsieur Harold de Badibang.
Voilà, Omar, nous avons le programme alimentaire qui vient de réduire son aide alimentaire aux déplacés à Nouganda et au Nord Kivu, en RDC. Entre-temps, nous relançons les débats sur la réserve stratégique générale qui devait en principe constituer une réponse à cette difficulté. Mais vous avez suivi notre invité, malheureusement, ce service de l'État sous tutelle du chef de l'État connaît également des difficultés. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup, J.R. Je suis avec un sentiment mitigé que je prends ces verbes. Mitigé parce que je suis au regret des remarques que le PAM a diminué son programme et je me demande quel est l'essor réservé aux personnes déplacées ainsi qu'aux réfugiés qui, du reste, ont une protection communautaire. Et parce que la loi l'indique. Des deux, j'ai un sentiment de joie parce qu'on a quand même créé une réserve stratégique car nul ne peut l'ignorer qu'un État sérieux doit savoir prévenir les calamités. Mais j'ai quelques inquiétudes, M. Juir, avant de proposer mes solutions pour la mise en œuvre effective de ces projets. Premièrement, il existe déjà un fonds humanitaire qui existe au niveau du ministère des Affaires sociales. Pourquoi ne pas réactiver ces fonds au lieu de la créer un autre? Deuxièmement, il existe encore un fonds social. On ne parle que de cela, un fonds aussi de politique culturelle. Il existe beaucoup de fonds qui ont comme vocation de résoudre les cas sociaux. Mais ceux qui existent déjà ne font pas bien leur travail. Pourquoi en créer d'autres au lieu de réactiver ceux qui existent déjà? Vous avez reçu, monsieur le ministre des Affaires sociales. Nous avons proposé qu'on puisse créer une réserve stratégique. Sa réponse a été qu'il existe déjà un fonds social. Est-ce qu'il est important pour le moment de créer une réserve stratégique ou de réactiver? C'est une question que je pose en même temps à l'invité qui pourra répondre quand il répondra. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux qui est dû, n'est-ce pas, au manque de moyens. Alors, qu'est-ce que l'on peut proposer? Nous avons soutenu, et je continue à le dire, que c'est un projet très important, car nul ne peut ignorer l'importance d'une réserve. Mais moi, je pense qu'il faudra des moyens sérieux pour cette mise en œuvre. Sinon, on sera là avec des chapelets de bonnes intentions qui n'aboutiront à aucun résultat escompté. Il faut que le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, alloue des moyens sérieux. Imaginez, interrogez un peu la politique américaine. Ils ont une réserve stratégique de 50 ans. Donc, ils vivent déjà bien, mais ils ont une réserve à l'avenir. Une réserve stratégique exige des moyens sérieux. Tout ce que M. Harold Badibanga dit ne pourra se réaliser que si les moyens sont alloués. Le Parlement doit donc faire son travail. D'une part, voter un budget conséquent. D'autre part, contrôler qui font gérer ces budgets. Des deux, je pense que l'alimentation financière de ces projets réside aussi dans l'assainissement de la gestion des finances publiques. Les entreprises publiques, les régies financières ont une part de responsabilité aussi dans la mesure où l'argent qu'on collecte peut aider, n'est-ce pas, à alimenter. Et des trois, je demanderai seulement la volonté politique et la capacité de la part de ceux qui vont gérer cette réserve. Monsieur Harold, que j'apprécie beaucoup dans ses interventions lors de débats de journalistes, je pense qu'il est bon. Je pense que tous ses collègues doivent aussi être munis de bonne volonté pour que les fonds qui leur seront attribués puissent, n'est-ce pas, aboutir à son terme.
Est-ce que Omar, pour vous, la réserve stratégique n'est pas de trop, du moment où vous avez évoqué le fonds humanitaire et le fonds social qui existent bien?
C'est vraiment l'inquiétude que j'avais. Pour moi, c'est une bonne chose, même je me demande est-ce qu'elle est opportune pour le moment, puisqu'il existe déjà un fonds de réaction rapide au niveau des affaires sociales. Et ces fonds ont le même but que la réserve stratégique. Je ne sais pas, est-ce que la réserve est là pour des faits à venir ou elle est là uniquement pour servir dans des calamités? Si c'est pour les calamités, autant mieux réactiver les fonds qui existent déjà. Dans ces cas, je pense qu'il y en a des trop. Si c'est pour un autre but, là, on peut que le soutenir. C'est l'inquiétude que j'avais. Et je voudrais que l'État ne puisse pas se limiter à...
Et quel regard avez-vous par rapport au statut juridique de ce service qui, en fait, est sous tutelle du chef de l'État et non de l'institution présidence de la République?
Ah, merci beaucoup, J.R., d'avoir touché à cette plaie juridique. Je vous remercie. Un service est dit service public lorsqu'il est créé par l'autorité publique et lorsqu'il satisfait l'intérêt général. C'est ce qui le différencie d'un service privé, c'est-à-dire lorsqu'on crée une entreprise pour qu'elle puisse aboutir à une satisfaction d'intérêt général, exemple, réhabiliter les routes, faire nourrir la population, on l'appelle service public. Et le service public peut être sous tutelle d'un ministre ou sous tutelle d'une autre autorité. Il peut être personnalisé, il peut manquer sur la personnalité juridique. Il faudra maintenant que ceux qui l'ont créé puissent nous garantir. Est-ce un établissement public? Est-ce une entreprise publique? Est-ce un simple service public? Un établissement public, c'est une entreprise créée par l'État qui a comme pour mission, n'est-ce pas, d'atteindre un intérêt général seulement. Alors que l'entreprise commerciale, comme le cas de la SONAS, c'est une entreprise de l'État créée pour générer les recettes à l'État. Alors qu'un simple service public, c'est celui qui n'a pas une personnalité juridique qui est soumise directement à une autorité publique. Je crois que c'est le cas de la réserve stratégique. Moi, je n'ai fait que dire ce que la théorie prévoit. Et à elle de nous dire quel est le statut juridique.
Le statut juridique de ces services. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons prendre Arsène qui est à Kikwit dans le Bandundu. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci pour la parole. Dès l'entrée du jeu, je vais présenter mes états de déception pour la réserve stratégique et pour la suspension du PAM. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois un peu les données techniques dans l'applicabilité d'une réserve stratégique. Nous sommes un pays qui est en guerre, je ne peux pas dire après des conflits, mais nous sommes en guerre. À part ça, la guerre n'est pas seulement définie au niveau des armes qui sont en train de trépiter à l'Est, mais la guerre est dans toute sa globalité. La guerre vis-à-vis de la famine, la guerre vis-à-vis de l'éducation, la guerre dans tout ce qu'il y a comme social dans cette nation. Je me demande, aujourd'hui, nous devons nous plaindre, ou bien nous devons regretter le PAM qui suspend son aide vis-à-vis de l'État congolais et de l'Ouganda.
Arsène, une précision. Le PAM n'a pas suspendu son aide. Le PAM a plutôt réduit son aide alimentaire aux déplacés en Ouganda et au Nord Kivu.
Ok, merci beaucoup pour la précision. Mais de toute façon, nous revenons toujours au même point. Qu'est-ce qui se passe? La réserve d'abord que Dieu nous a laissée dans cette nation est tellement grande que nous ne savons pas directement l'utiliser. Pourquoi je dis ça? Les étendues des terres, nous ne l'utilisons pas. Les capacités dans l'agriculture que nous avons, nous ne les utilisons pas. Le président de la République organise une organisation pour subvenir aux besoins de la nation et on va budgétiser ça à 1 million de dollars ou 2 millions de dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas une bonne volonté d'aider la nation congolaise. Parce que aujourd'hui nous nous retrouvons devant une calamité naturelle où on doit directement agir. Nous allons agir avec 2 millions de dollars. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la poche d'un seul Congolais ou la poche de l'institution président de la République. Donc,
non, Arsène, par là,
il n'y a pas de bonne volonté politique, c'est juste pour miroiter un peu qu'on a l'envie de venir en aide à la population. Venons dans les données techniques. Cette institution a mis combien de tracteurs sur le terrain? Cette institution a combien d'hectares déjà utilisés pour la production, par exemple, des denrées alimentaires de première nécessité? Quelle a été déjà la production? Si je m'en vais dans toutes ces questions, vous verrez, monsieur, comme l'invité venait de le dire, juste ce qu'ils produisent va directement à la consommation. Maintenant, on va poser la question, quel type de consommation? Les Congolais sont affamés? Combien de tonnes on va mettre? Vraiment, en tout cas, monsieur J.R., je n'irai pas très en profondeur dans cette histoire, mais je vais dire seulement qu'il y ait la volonté politique de mettre plusieurs hectares de terre pour l'agriculture, plusieurs machines qui vont accompagner l'homme. Je crois que les techniciens dans la matière de développement rural peuvent intervenir pour nous donner des données correctes. Mais moi, en tant que technicien industriel, je trouve qu'il n'y a rien, c'est juste amuser la galerie et faire un peu de la propagande et dire qu'on veut aider les Congolais. Je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas c'est mon avis. Je peux m'arrêter là.
Merci beaucoup Arsène d'avoir appelé de Kikwit. Vous avez au fait quelques inquiétudes en ce qui concerne le nombre des tracteurs qui ont été déjà mis à disposition des paysans et aussi combien d'hectares disponibilisés pour la réserve stratégique générale afin de mener à bon port les actions et les activités de ces services de l'État. Et quel est déjà le niveau de production aujourd'hui? C'est vrai que ça va directement pour la consommation directe, mais vous vous inquiétez de ce niveau de production qui, pour vous en tout cas, ça sous-entend que vous vous inquiétez que cela puisse être une production très faible ne pouvant pas aider tant soit peu la population à sortir de cette famine. Merci beaucoup Arsène d'avoir appelé de Kikwit. Teddy, vous êtes à Kolwezi, au Katanga. Bonjour Teddy.
Bonjour.
Vous avez la parole Teddy.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, ma préoccupation était basé surtout sur le plan du développement. Moi, je pense que ce fonds qui a été créé, la réserve stratégique, on devrait placer cette histoire-là dans le fond au sein du pays. Parce qu'il y a partout dans notre pays, il y a des endroits où ils ont besoin de cultiver, mais les moyens leur manquent vraiment. Je prends dans le cadre ici à Kolwezi. À l'intérieur, ils ont des terres vastes, des vastes terres qui sont vides. Donc personne ne peut cultiver parce qu'il n'y a pas de fonds. Bien sûr, il y a des ONG qui essaient un peu, tant soit peu, de s'organiser, aller aider ces gens-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui est aidé dans ce sens-là. Moi, je pense que le fonds, ou plutôt la réserve stratégique, doit d'abord faire une étude profonde, descendre dans tous le pays, voir ce qu'il y a, qui ont besoin vraiment de cet appui, et voir dans le cadre où ils vont aider ces gens-là. Je vois aussi mal que on est en train de passer le temps peut-être en créant des services en services, des services en services depuis des années, et ces services ne font rien pratiquement.
Oui, parce qu'aujourd'hui, là, c'est la réserve stratégique en fait, est opérationnelle depuis 2003, si nous devons comptabiliser, ça fait pratiquement 11 ans dans son actif. J'imagine qu'il y a déjà eu quelques interventions. Alors, notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Combien d'interventions en cas de calamité que nous avons connues? Il y a des situations humanitaires que nous avons pu déplorer pendant cette dernière décennie. Alors, combien de fois il y a eu des interventions? Donc, on va y revenir. Hein. Merci Teddy d'avoir contribué dans cette émission. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Nous poursuivons Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Nous avons dans ces studios Harold Badibanga, qui est le chargé des communications auprès de la réserve stratégique générale. Harold, vous avez suivi les uns et les autres, pas mal d'inquiétudes, pas mal d'appréhensions, beaucoup de confusion dans la tête au fait d'un chef de Congolais en ce qui concerne la réserve stratégique. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre que fait exactement la réserve stratégique, parce que 11 ans durant, certains n'ont pas pu palper les interventions de ces services de l'État sous tutelle de la présidence de la République.
Merci beaucoup pour les questions de nos compatriotes. Il y a Omar de Kinshasa, Kikuit d'Arsène, Colosi de Teddy, tant pour aussi pour leur appréhension par rapport à ce que la réserve stratégique fait. Mais je m'en vais toutefois dire déjà à Omar qu'il y a une nette différence entre le fonds social d'intervention rapide, quelque chose comme ça, et la réserve stratégique générale. Et même avec le ministère des Affaires sociales, dans la mesure où le fonds social ou cette caisse d'intervention rapide n'intervient qu'avec des moyens financiers. Mais la réserve stratégique générale a sa spécificité. Lorsqu'il y a des calamités, en tout cas, elle ne peut pas sortir de l'argent pour donner au gouvernement pour qu'il intervienne. La réserve stratégique détecte le besoin lorsqu'il y a pénurie, lorsqu'il y a calamité en termes, par exemple, de maïs, de haricots, elle intervient directement avec ça. C'est ça la nette différence, étant donné que s'il faut comparer le fonds en question et la réserve stratégique générale, cela reviendrait à demander à la réserve stratégique générale que lorsqu'il y a une calamité comme ça, qu'elle sorte de l'argent, qu'elle donne au gouvernement, que le gouvernement achète. Et là, le processus se fait de plus en plus long. Mais là, on disponibilise déjà à manger et à boire tout ce dont la population a besoin pour le moment pour sa survie. Donc, c'est très différent. Mais aussi avec le ministère des Affaires social qui n'a rien à voir avec les missions allouées à la réserve stratégique générale. En sache encore que Omar ne saura pas me contredire, le ministère des Affaires sociales n'est pas là pour constituer des stocks, n'est pas là pour constituer des réserves pour permettre à l'État de faire face. Le ministère des Affaires sociales est là pour voir ce dont la population a besoin dans un secteur donné, et peut même intervenir avec des histoires autres que celles qui concernent le manger de la population. Donc, de ce point de vue-là, il y a une petite confusion que je tenais Et donc, par rapport à, je vous ai entendu dire, un service qui n'est pas sous tutelle de l'institution président de la République, mais qui dépend plutôt du chef de l'État. Mais le chef de l'État lui-même est une institution. Donc, quand on dit que c'est un service sous tutelle du président de la République, effectivement, c'est le président de la République lui-même qui est institution. Donc, la réserve stratégique dépend de lui en tant qu'entreprise publique. Mais là où il y a de la différence dans le dire de Omar, que j'ai beaucoup aimé, c'est que sur le plan de droit, une entreprise publique est, comme il l'a dit, celle créée par l'autorité publique compétente et qui y a comme mission de répondre à un certain besoin déterminé au niveau de la nation. De ce point de vue-là, la réserve stratégique générale en est une dans la mesure où le chef de l'État qui l'a créé est une autorité publique compétente et de deux, la réserve stratégique est chargée d'une mission spécifique. Mais étant donné que cette mission est trop sensible, cette mission touche directement au vécu quotidien de la population, le chef de l'État a estimé qu'il devait lui-même en être chef de tutelle pour plus de suivi et d'orientation à donner de manière directe. Vous le savez bien, JR.
Mais est-ce qu'il est informé que la réserve actuellement n'a pas assez de moyens?
Mais cette émission de la radio Capi et permet que tout le monde le...
Mais il reçoit quand même les rapports quotidiennement.
Il reçoit le rapport et je crois qu'il a déjà donné des instructions au niveau du Parlement pour que ce qui a été fait soit revu et que le budget, le crédit budgétaire de la réserve stratégique générale soit revu à la hausse. Donc pour revenir à ce que la réserve stratégique générale a déjà fait depuis
la production,
2003,
les
depuis 2003 jusqu'à 2014, 11 ans après, je ne peux pas hésiter lorsqu'il faut dire que le bilan de la réserve stratégique générale est positif. Positif dans la mesure où, nonobstant les difficultés que nous avons épinglées ici, l'insuffisance du crédit budgétaire, les efforts qui sont fournis par la directrice générale Marianne Sita de l'implanter sur toute l'étendue de la République, mais il y a au moins les couches les plus vulnérables de la population, plus précisément à Kinshasa, dans le Bas-Congo, qui reçoivent le fruit des efforts de la réserve stratégique générale. Général, au moins 3 mois par an, c'est-à-dire pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques et même le début de l'année, on disponibilise, vous vous en doutez bien, à des prix vraiment dérisoires. Le vivre de première nécessité.
Mais cette année, curieusement, on a vu au premier plan le ministère de l'Agriculture, surtout avec ce projet de réhabilitation de l'Ancelé.
Oui, bon.
Avec de poulets déchets.
La réhabilitation de l'Ancelé, c'est une bonne.
Et pourtant, ça pouvait, au fait, être aussi sous tutelle de la réserve stratégique, parce que c'est dans le compte des réserves stratégiques pour permettre à l'État d'intervenir urgemment.
Au départ, le site de Daipen n'appartenait à la réserve stratégique générale. Mais il y a eu des affectations à un certain moment. C'est ainsi que la réserve stratégique générale, qui dépend du chef de l'État, ne peut que tenir compte des orientations qui sont de données. Oui. Mais lorsqu'il faut comparer le travail qui est fait par la réserve stratégique générale et par exemple à ce qui est fait au Daipen, il suffit de poser la question aux fonctionnaires de l'État, aux enseignants et même à certaines asbelles qui encadrent les enfants pour comprendre que lorsque un sac de maïs, manioc, du riz, de l'haricot, du haricot, de l'huile de palme et même du poisson vous ont donné tout ce kit complet à seulement 25 000 ou 27 000 francs congolais à payer après un ou deux mois. Il y a de quoi se dire que la réserve stratégique générale a soulagé d'une manière ou d'une autre la misère de la population de ce point de vue-là. Et ça, c'est pas notre témoignage, c'est le témoignage des bénéficiaires eux-mêmes. Donc, l'étude profonde, d'abord pour parler des tracteurs.
Les tracteurs, le nombre d'hectares que vous utilisez,
c'est
seulement à Kinshasa?
Non, c'est pas seulement à Kinshasa. Je prends en témoin tous nos compatriotes qui vont dans le banc, nous, ils passent par Mbankana. Il suffit de voir à droite, il y a une pancarte président de la République, zone agricole pilote, réserve stratégique générale. Donc, il est difficile à ce niveau de dire combien d'hectares nous exploitons dans la mesure où il y a plusieurs zones agricoles pilotes, tant à Kinshasa, dans le banc Ndundu et même dans le Bas-Congo. Tout récemment, la DG a envoyé...
Et à Kolwezi, parce que c'était la préoccupation des Tedi. Arsène et la Tedi aussi.
Oui, à Kolwezi, à l'Équateur, dans le Kassai oriental, c'est en devenir. Les études sont en cours pour voir comment la réserve stratégique générale peut s'implanter sur toute l'étendue de la République. Mais là, il y a une condition.
Donc, durant 11 ans, la réserve stratégique n'a fonctionné, n'a opéré que
dans le Bas-Congo et a la vocation de s'implanter sur toute l'étendue de la République. Et pour y arriver, il faut que...
Vous avez déjà un chronogramme? chronogramme parce
il
que
y a
c'est...
un chronogramme, mais qui est bloqué par rapport à ce dont nous parlons, le déficit budgétaire. Maintenant, en termes d'hectares, il est difficile de préciser combien d'hectares nous avons, étant donné que c'est beaucoup par rapport au nombre de zones agricoles pilotes que nous avons, avec bien sûr les tracteurs qui nous sont donnés non seulement par le chef d'État, mais aussi grâce à la coopération que la réserve stratégique a avec certains pays comme l'Égypte, le Japon et la Chine, qui donne aussi la formation aux ingénieurs agronomes congolais en termes d'agriculture. Et soit les ingénieurs agronomes se déplacent vers ces pays où viennent. Donc, c'est ce qui est fait. Malheureusement, jusqu'à ce moment, c'est pour le besoin de la consommation. Mais si le crédit est là, en tout cas, on va constituer réellement des stocks. Les études profondes, pour dire à mon compatriote Teddy de Colouésie, sont en train d'être faites. Et la réserve stratégique générale a une spécificité qui n'est pas à confondre avec un autre quelconque, étant donné que lui, elle plutôt n'a d'objectif et de cible que la population du point de vue de sa consommation.
Voilà, alors on va repasser à nouveau de l'autre côté du standard avec Toto Kani qui est à Kinshasa, Olivier à Kikwit, Madame Elodie à Gemena. Toto Kani, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Je vous remercie. Pour ce qui est du débat d'aujourd'hui, j'allais dire que ma participation, mon intervention est sans objet en suivant le patriote Arsène de Kikwit. Mais laissez-moi vous dire que je pourrais dire la même chose en d'autres termes et sans émotion.
Oui, allez-y rapidement.
Pour ce qui est de la réserve stratégique générale, je dirais que l'initiative est louable dans la mesure où elle vise à doter le pays d'importantes quantités d'aliments issus de l'agriculture. Et dans une certaine mesure de l'élevage aussi. Ce, au regard, nous avons été longtemps extravertis en important même le riz et du maïs, parfois, malgré notre triste expérience que le pays a connue, a essayé avec l'Office national des céréales, en sigle ONACER, du président Mobutu. Alors, tout comme à ce temps-là, à l'heure actuelle, la réserve stratégique est tributaire de la politique agricole que le gouvernement mène. Nonobstant les efforts consentis en remettant des tracteurs aux fermiers et en finançant la campagne électorale,
vous voulez parler de la campagne agricole.
Pas une réelle volonté du décollage dans cette
situation. Voilà, on s'entend pas.
Aussi, ainsi donc, je formule le vœu de voir le législateur réajuster à la hausse le montant réservé à l'agriculture, car après la guerre, le peuple doit manger et c'est son droit. Et je ne voudrais pas ici demander la réserve stratégique générale soit éparpillée à travers toutes les provinces, d'autant plus que votre invité l'a déjà relevé.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je crois que s'il faudrait dans chaque secteur qu'on puisse solliciter le réajustement de l'autre côté des législateurs, je crois que la solution sera globale dans la mesure où tout le monde, en tout cas la plupart des invités que nous recevons dans ces studios, tous en tout cas se plaignent de la part allouée au niveau du budget. Alors donc ça, c'est pratiquement une solution qui doit être d'une manière un peu générale. Merci beaucoup Toto Kani d'avoir appelé. Olivier est à Kikwite. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Olivier.
Ok, merci. Bon, voilà. Moi, je voulais d'abord dire une chose, comparer le fonctionnement de l'État à l'organisme humain. On ne sait pas faire les réserves de glucose dans l'organisme quand on n'en a pas assez pour faire vivre les cellules. Et c'est comme ça que l'État doit fonctionner.
Olivier, on vous saisit difficilement. C'est comme si vous êtes vraiment dans une caisse. Je ne sais pas si vous êtes dans une maison, prière, ne plus que de vous déplacer un tout petit peu, ça pourrait améliorer la qualité de communication. Ben sinon, vous sortez vraiment comme dans une caisse. On aura difficile à comprendre de quoi vous parlez.
Ça va ?
Ben allez-y, on va essayer de vous suivre.
Okay. Donc je disais que l'organisme humain est comparable à l'État, enfin, l'État comparable à l'organisme. On ne sait pas faire des réserves de glucose si on n'en a pas assez pour faire vivre les cellules. Et donc, notre État doit faire la même chose. Le mot réserve n'est pas à sa place ici. Et les réserves de tous les pays du monde, les réserves fonctionnent ou sont une conséquence de la production agricole. Lorsque un État a suffisamment produit, on peut maintenant dire, bon voilà, nous en avons assez, commençons à faire quelque chose pour les jours futurs. si vous analysez, vous étudiez l'Asie du marché commun européen, devenu aujourd'hui l'Europe de 15 et 18, ben, c'est ça le point de départ. La production et ensuite on pense aux réserves. Donc, on ne peut pas commencer par créer un service de réserve.
Aussi longtemps qu'il n'y a pas de production.
Aussi longtemps qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, la population active, ça, active, on n'a rien à manger. Et c'est un service qui ne peut pas avoir ses propres domaines agricoles. C'est un service de l'État qui ne peut que fonctionner dans la production nationale selon la politique nationale agricole. Donc, c'est ça. La politique agricole nationale au plan général, c'est ça qui va nous permettre un jour de commencer à faire des réserves. Alors, je me dis que nous sommes, encore une fois, on a placé, comme je l'ai toujours dit, la charrue devant les bœufs. Et ça, c'est notre grosse erreur. Alors, dire que PAM a réduit
son aide alimentaire, oui.
Moi, je pense qu'on ne doit pas condamner PAM. Ce sont des organismes qui fonctionnent avec le budget. Et l'État congolais doit comprendre que lui aussi, c'est un État. Je ne sais pas si vous suivez, enfin, vous le suivez sans doute, le rapport de la MONUC chaque mercredi, mais tous les jours, ils ne cessent de citer qu'ils ne sont pas venus pour remplacer l'État congolais.
Ils viennent en appui. Tous les organismes internationaux, même les différents partenaires traditionnels, ils viennent en appui et la part de l'État est aussi attendue dans ces genres de rapports.
Alors, justement. Alors, un deuxième problème. Vous avez l'invité. Il nous dit, voilà, les tracteurs sont donnés par le chef de l'État. Alors, vous voyez, dans les oreilles de la population, c'est la confusion. C'est le chef de l'État ou c'est la République qui donne les tracteurs. Ça, c'est une confusion. Donc, c'est vrai que c'est une institution au chef de l'État. Mais il faudrait qu'ils disent que les tracteurs sont donnés par l'État. C'est beaucoup plus clair. Et ce n'est pas... Il y a peut-être des motivations qui ont fait qu'on puisse oublier la procédure donc, que je venais de décrire, plus que les réserves. Donc, lorsqu'on crée des services de l'État, nous avons déjà vu dans plusieurs républiques, lorsqu'on a envie de donner de l'emploi à certaines personnes, on oublie des procédures élémentaires.
Non, élémentaires.
C'est ça. Donc, je crois qu'il y a un problème de ce côté-là. Et nous devons vraiment...
Voilà. Alors, parce qu'il s'agit là d'une préoccupation un peu directe. Est-ce que la création, la mise sur pied de la réserve stratégique, c'était pas pour positionner les amis mais voilà, donc créer juste pour donner de l'emploi aux gens?
Pas du tout, vous savez...
Parce que tout devait être pensé en amont, les budgets, les moyens conséquents, parce que comme l'a dit un auditeur, la réserve stratégique, ce n'est pas une mince affaire.
C'est pas une mince affaire, raison pour laquelle j'aurais conseillé à mon compatriote Olivier de ne pas raisonner en termes de charrue devant le bœuf. Parce que si la réserve stratégique n'a pas été créée, si... les fonctionnaires de l'État qui sont aujourd'hui bénéficiaires du travail de la réserve stratégique générale n'étaient pas aidés. Mon frère Olivier viendrait dire, on n'a même pas pensé à la réserve stratégique dans ce pays alors qu'elle existe dans d'autres pays. Au lieu de penser dans le sens de la charrue devant le bœuf, il devrait d'ailleurs penser dans le terme d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. Il ne peut pas raisonner dans ce sens-là où son discours ne peut pas passer devant les bénéficiaires du travail que fait la réserve stratégique générale sur terrain. Lui, peut-être, a à manger et à boire, mais les bénéficiaires qui ont chaque fin du mois, chaque fin de l'année ou au milieu de l'année, les denrées alimentaires produites par la réserve stratégique générale dans ces zones agricoles pilotes ne peuvent pas tenir ce discours. Donc, il n'y a nullement pas...
À Kinshasa, par exemple, les zones agricoles pilotes, c'est où à Kinshasa?
Dans la zone urbano-rurale de l'Ancelé, plus précisément à Mbenzalé. Lorsque vous allez là-bas, vous vous rendrez compte que juste en face de la pagode de l'Ancelé, il y a une zone agricole pilote de Mbenzalé qui va jusqu'à plus de 500 hectares. Donc on a planté et de maïs et du haricot et consorts justement pour venir aux besoins de la population. Et ça rentre même dans la logique qu'il faut permettre aux Congolais de manger local. Donc Olivier doit savoir que la réserve stratégique générale a réellement un domaine agricole. Et ce domaine agricole est disparate, en réparti en termes des zones agricoles pilotes. Mais aussi, les paysans qui sont formés par la réserve stratégique générale ont aussi l'avantage de recevoir non seulement des semences, comme je l'ai dit, mais aussi... un domaine, la réserve stratégique générale vous donne les terres arables, les semences, vous produisez, non seulement pour vous, mais aussi pour permettre à desservir le marché local de Kinshasa. Lorsque mon frère Olivier dit le chef de l'État, c'est pas lui qui a donné, et il ne fallait dire que... Non, c'est un problème de nuance. Le chef de l'État n'agit pas en termes individuels. C'est toute une institution. En agissant ainsi, il engage la République. Donc c'est l'État qui a donné. Je ne vois pas pourquoi il devait créer une polémique à ce niveau-là. Voilà. Quand, quand si il donne, permettez... il a donné au nom de l'État.
Voilà. Si vous permettez, Harold Badibanga, on va prendre encore une autre série des auditeurs avec Madame Elodie qui est à Guémena, Congo à Mbujimayi, et Docteur Richard à Kinshasa. Madame Elodie, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Oui, bonjour JR, c'est la première fois d'ailleurs que j'assiste à une émission qui est pianiste. J'ai toujours assisté avec Pierrot.
Je vous en prie.
Bonjour aussi Arnaud.
Bonjour madame.
Oui, je lui suivais, oui, je vous suivais vraiment mot par mot. D'ailleurs, vous avez déjà répondu à la plupart de mes questions que j'avais, mais il y en a deux ou trois qui ne sont pas répondues. Je voudrais, avant de poser mes questions, encourager, parce que je crois que nous, Congolais, nous sommes toujours pessimistes dans tous les domaines. Donc, nous ne voyons rien de bon dans les pays. On doit encourager, et puis lorsqu'on va voir que ça ne marche pas, et montrer maintenant notre mécontentement. Je voulais encourager ce système-là, mais je regrette seulement toutefois que depuis 2003, ils ont un faible rendement. Et je voulais maintenant poser la question de savoir. Le fait que les femmes a baissé son soutien,
a réduit son aide alimentaire.
Qu'est-ce prévoit parce que, oui, qu'est-ce prévoit maintenant cette stratégie, générale parce que il dit que gouverner, c'est aussi prévenir.
Donc, ils avaient déjà prévu.
Parce que les besoins, c'est dans tous les territoires congolais. Si on dit au nord, Kivu, là-bas, il y a beaucoup
de
gens qui ont besoin d'aide. Mmh. À l'Équateur, en province orientale, avec les réfugiés qui sont, qui viennent de Centrafrique, là, ils ont besoin d'aide. Je voulais poser aussi la question pour connaître les sites de leur stratégie, là. Il a cité beaucoup de sites. Mais moi, je voulais conseiller aussi ceci. Notre pays a beaucoup de provinces. Et chaque province a ses spécificités de climat et de produits qui peut, de denrées qui peut produire. Il a dit en Équateur, parce que comme moi je suis à l'Équateur, il a dit à l'Équateur, il y a un site aussi qui est agricole pour ça. C'est où par exemple? Et si tu pouvais dans tous ces sites-là installer un site dans chaque province, prenons par exemple les cas, l'Équateur est réputé pour les arachides, les concepts de manioc et les maïs. Il donne un minimum de tonnes que l'Équateur peut produire, autant pour d'autres provinces. Vous voyez que votre stock là ne va pas aura aussi une réserve, parce qu'il dit que la stratégie générale là avait pour mission de stocker et pour venir en aide au moment des calamités. Malheureusement, cette mission n'est pas respectée parce que au moment des stockages, c'est aussi livré directement. Si au moment de comment dirais-je? Si au moment de...
Oui, Madame Elodie, l'invité a évoqué le problème de le contrat budgétaire. C'est vrai, la part allouée à la réserve stratégique ne peut pas, en fait...
J'allais aussi en venir.
Tout à fait, répondre
j'allais à... J'allais venir aussi en venir. J'allais dire aussi, c'est sinon que le gouvernement aussi, quand il s'agit d'une organisation qui demande beaucoup d'aide, il tourne les dos, il ne soutient pas bien. Pour donner à ceux qui sont à la tête de cette organisation... un déficit pour dire qu'ils ne font pas bien leur
travail.
Si le gouvernement les soutient très bien,
c'est quoi ça donnera le résultat escompté.
À soutenir aussi les gens qui sont aux calamités.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment.
Et à la fin, je voulais poser.
Rapidement, Elodie, parce qu'on a pris assez de temps.
Comment ils font pour stocker leurs réserves là? Et puis, deuxièmement, il a dit que ce sont les fonctionnaires.
Je crois qu'on va s'arrêter là, madame Elodie.
Moi aussi, je suis fonctionnaire. Je ne bénéficie pas, par exemple, de ça. Et puis, de lui, il vend.
La réserve stratégique. Voilà. Donc, c'est pas un rôle qui vend.
Par contre, les PAM donnaient gratuitement.
Gratuitement, voilà.
C'est la différence.
La différence avec les PAM, elles donnent son aide gratuitement. Mais quand ils réduisent, c'est vrai qu'il y aura pas mal de problèmes avec les déplacés. Vous souhaiterez que la réserve travaille aussi dans ce sens de pouvoir arriver à l'objectif des EMD et surtout dans la réduction de la pauvreté, de donner aussi gratuitement certaines réserves en cas de calamité ou en cas de situation un peu humanitaire très compliquée. Merci beaucoup Madame Elodie d'avoir appelé de Guémena à l'Équateur. Congo, vous êtes à Mbujimayi et on va terminer avec Docteur Richard qui est à Kinshasa. Congo, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Congo Grand, j'interviens depuis Mbujimayi.
Vous avez la parole.
Ah oui. Vous savez, le président Mobutu, c'est ce que Koko Bodo Asa Banga disait. Compétence des dirigeants politiques dans les années à venir, se mesurera par leur capacité à nourrir leur peuple. Ce qui veut dire que la mission, la responsabilité de nourrir la population appartient à l'État. C'est dans ce sens-là que je salue la création ou la mise en place de ce service qui a existé depuis 2003. Et si vous faites un petit calcul de 2003 jusqu'en 2014,
ça fait 11 ans. 11 ans, si les calculs sont bons.
Oui. Ouais. Alors, un enfant de 15 ans est un grand garçon. Alors, vous comprenez que au niveau de la prise en charge de la population, je crois que ce service a failli à sa mission parce que sa mission est de réserver et intervenir au moment des calamités auprès de la population qui est en détresse. Alors, comme il a failli à sa mission de réserver, moi je trouve qu'il est d'abord important de fermer et prendre les fonds qui sont alloués à ces services.
Qu'on donne à d'autres fonds, notamment les fonds.
À d'autres services qui sont à la production. Parce qu'elles sont là pour réserve. Alors, il faut que ces fonds alloués aux services qui sont...
Qu'on renforce la capacité de production ailleurs et comme ça, ça pourrait générer plus tard...
À ce moment-là, ouais. Lorsqu'on produit plus, lorsqu'il y aura surproduction, à ce moment-là, on fera maintenant...
On pourrait aider la réserve.
À la réserve stratégique qui va résoudre.
Voilà.
On verra maintenant comment intervenir.
Merci.
Alors, quelque chose que...
Rapidement, parce que vous n'avez que 30 secondes au Congo.
Oui.
Vous n'avez que 30 secondes avant qu'on termine avec Richard,
oui,
qui aura une minute aussi.
Alors, je me disais encore que je comprends mal quand l'auditeur va dire, quand notre...
invité, oui.
Il n'a pas de données chiffrées sur le nombre d'hectares cultivés par la réserve. Là, moi, je vois que c'est un peu flou, parce que on doit avoir les données fiables le nombre d'hectares cultivés, ce qui va nous permettre aussi, nos auditeurs, de faire un peu
de calcul. De faire des calculs et voir
le nombre de tonnes de production. À ce moment-là, on verra que la réserve produit combien.
Produit combien et quel est le travail qu'il fait au quotidien.
On va décaler. On aura le nombre
de... Merci beaucoup. On est obligé de vous interrompre, Congo, par là. Et puis, on va accorder une minute aussi au dernier auditeur, Dr Richard, qui est à Kinshasa. Dr Richard, bonjour.
Bonjour à notre invité. Félicitations à tout le monde qui a parlé. Voici ma contribution. Vous savez que j'avais co-animé une émission sur la malnutrition chronique en RDC. Elle s'élève à plus ou moins 42% de la population. Réserve stratégique, c'est très bien, mais c'est une bonne idée mal encadrée. Pourquoi ? Parce que la FAO nous a dit que notre pays a la vocation de nourrir la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3 milliards de personnes. Si aujourd'hui, on ne s'arrête qu'à résoudre le problème de calamité, je crois qu'on est en train de jouer à la rêverie. Pourquoi j'ai dit ça? Un auditeur a parlé des États-Unis qui ont
50 ans de réserve.
50 ans de réserve.
Oui.
Nous devons avoir des réserves en dehors des calamités. Pourquoi j'ai dit ça? La plupart des maladies qui sont soignées en RDC et dans le monde sont des maladies liées à la carence alimentaire. Chez nous ici, on doit faire la promotion
rapidement, Richard.
De l'agriculture familiale. Qui peut donner beaucoup de choses. Et le programme national de stratégie qu'on vient de dire, la stratégie nationale, ne viendra que prélever en achetant chez les familles qui ont produit. Voilà comment on peut aider.
Aider, voilà.
Vous savez que
merci
nous
beaucoup,
manquons
merci
même
beaucoup,
des
stylos. Docteur Richard.
Quand vous allez vers Baramoto là-bas, pour Baramoto, il y a un stylo.
Docteur Richard, merci beaucoup de votre contribution. On n'a plus assez de temps, on n'a que 2 minutes pour la conclusion avec notre invité, Harold Badibanga. Vous êtes chargé de communication auprès de la réserve stratégique générale. On doit ramasser maintenant toutes les interventions des uns et des autres pour conclure.
Je vais tout simplement dire à mon frère Congo de Mbujimaï que la réserve stratégique générale ne peut pas stocker comme il le veut quand il y a des besoins sur terrain. En tout cas, tout ce qui est produit l'est pour stocker, mais on ne peut pas stocker quand il y a des besoins. Sinon,
parce qu'une faible production,
oui,
et ça va directement
sinon,
à la consommation directe.
Sinon, c'est suicidaire. Lorsqu'il dit qu'il faut fermer la réserve stratégique, mais ne donner que les possibilités pour ceux qui produisent. Je lui apprends que la réserve stratégique produit elle-même aussi, parce que je lui ai parlé des zones agricoles pilotes dans lesquelles on produit, et on aide aussi les paysans à produire. C'est là pour répondre aussi au docteur Richard par rapport à l'agriculture familiale. Les paysans qui sont encadrés par la réserve stratégique générale bénéficient de l'aide pour l'agriculture aussi familiale, et c'est eux qui, lorsqu'ils dépassent l'agriculture familiale, peuvent maintenant penser à vendre quelque chose sur terrain. Nous n'avons pas dit ici que nous n'avons pas de maîtrise du point de vue du nombre d'hectares. Mais je dis que le nombre d'hectares est de loin plus large, dans la mesure où ces hectares sont disparates sur toutes, dans différentes zones agricoles pilotes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus le rendement et rencontrer le besoin de la population, que connaître le nombre chiffré de ces hectares. À Madame Elodie, je vais tout simplement dire
que nous avons les
sites de Menkao et de Mesale, et chez elle, à l'Équateur, il y a des sites en prospection à Yakoma et à Bumba qui sont en train d'être étudiés par des experts qui sont partis de Kinshasa pour le nom et pour le compte de la réserve stratégique générale, pour voir comment installer des zones agricoles pilotes là-bas. Donc je ne peux que dire ici merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui sont intervenus, pour leurs idées fortes qui vont aider réellement au gouvernement de la République
de
soutenir la réserve stratégique générale pour les à être plus efficace que davantage, étant donné que ce qu'elle fait sur terrain est déjà visible.
Harold de Badibanga, merci d'avoir accepté notre invitation, et nous rappelons que vous êtes chargé des communications auprès de la réserve stratégique générale. Merci et à très bientôt.
Merci, bien sûr.
Voilà, nous disons merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Pierre Lamegi l'a réalisé. J.R. Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. La Banque Centrale du Congo est engagée dans le redressement de la coopérative d'épargne et de crédit Imara de Goma. Avec plus de 35 ans d'existence, cette coopérative d'épargne congolaise doit plus de 24 millions de dollars américains à ses clients. Faute de liquidité, la COPEC Imara a difficile à fonctionner normalement depuis 7 mois maintenant. Ceci relance les débats sur la problématique des gestions des coopératives en RDC. Donc prenez déjà rendez-vous avec nous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.